c'est en compagnie de Juan Gomez, pour
Merci.
Rappel sur l'actualité.
Bonne journée Léa Boutin-Rivière, prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans 20 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin.
Radio G, 101.5 FM.
Venu d'ailleurs, la nouvelle émission sportive, mais pas que, de Radio G, animée par Valentin Dedon pour l'association La Dallangeville. À retrouver un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Une conversation intime avec un ou une invitée venue d'ailleurs et qui vit aujourd'hui sa passion pour le sport à Angers. Alors à très vite dans Venu d'ailleurs sur Radio G. Venu d'ailleurs, c'est un podcast pensé pour vous faire découvrir des personnalités, actrices et acteurs de la vie sportive angevine, et qui possèdent toutes et tous ce très beau point commun. Elles ou ils sont nés dans un pays qui n'est pas la France, dans un ailleurs qui déclenche une curiosité, comme une invitation au voyage, un voyage humain. Alors nous allons les accueillir et les questionner, sur leur terre natale, sur leur rencontre avec le sport là-bas, sur le chemin qui les a conduits jusqu'ici, à Angers, et sur le rôle qu'ils ou elles occupent aujourd'hui dans le paysage sportif local.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Venu d'ailleurs, l'émission que vous écoutez à votre guise, un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G, en replay sur radio-g.fr ou en podcast sur le site de l'association La Dallangeville qui aime vous parler du sport à sa façon. Alors on accueille aujourd'hui derrière le micro Cosimo Muccio, 52 ans, entraîneur de boxe qui a fondé en 2018 l'AM Boxing à Saint-Barthélemy d'Anjou. Alors bonjour Cosimo, on t'appelle plutôt Mino et bienvenue dans Venu d'ailleurs.
Bonjour Valentin, merci de m'accueillir dans vos studios, c'est gentil à vous.
Alors Mino, première question rituelle de cette émission, dans quel pays, dans quelle ville es-tu né?
Alors, je suis né à Messagne, une ville de à peu près 30 000 habitants en Italie, dans le sud de l'Italie, c'est la région des Pouilles, c'est vraiment le talon de la botte tout en bas de l'Italie.
Donc dans les Pouilles, parle-nous un petit peu de cette région, c'est près de la mer,
c'est une région qui est entourée de trois mers, l'Adriatique, la Ionienne et la Tyrrhénienne, et c'est une région, assez dure à vivre, au moins de quand j'y étais. Maintenant, les choses s'améliorent, parce qu'avec Internet, il y a beaucoup plus de développement, même pour les jeunes, alors que quand j'y étais, c'était difficile déjà de trouver du travail. Il y avait le problème aussi, que tout le monde connaît, c'est la mafia, voilà. Et
oui, le sud de l'Italie, on sait qu'à cette époque-là, c'était une zone assez dure.
Tout à fait. Dans les années 90, surtout, c'était assez animé. Je me suis retrouvé souvent dans des situations un peu, disons, catastrophiques. J'étais, notamment un soir, j'étais serveur dans un restaurant. Et j'ai accompagné un de mes collègues chez lui. Et en faisant une marche arrière, je me suis retrouvé devant moi à 20-25 mètres, un homme avec un pistolet qui pointait vers moi, qui me demandait de descendre de la voiture. Mais puisqu'il n'y avait pas d'uniforme, je ne savais pas à quoi m'attendre, parce que dans la journée, il y avait eu un attentat à un chef mafieux. Et ce mec, il avait réussi à s'échapper de l'hôpital et rentrer chez lui. Et moi, je savais pas à quoi m'attendre. Je pensais que c'était des factions rivales qui allaient pour le finir. Et voilà, pris de panique, j'ai voulu enclencher une marche arrière, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Et c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie, parce que le policier en face, une fois qu'il s'approchait, qui me disait bravo, bravo, bouge pas. Voilà, j'étais pas trop rassuré quand même, mais il m'a dit si tu l'avais fait, j'aurais tiré. Et je pensais tout de suite, moi, à ma mère, dans les journaux, ça y est, il est plus là.
Ouais, en tout cas, ouais, c'est vraiment, y a pas que dans les films, quoi. C'était aussi la réalité de cet endroit-là, d'être confronté potentiellement à ce genre de choses dramatiques. Pour revenir un petit peu à ton enfance, donc, Je crois savoir que tu as eu une toute petite période en Italie et puis après, il y a eu très vite un déménagement en Allemagne, c'est ça?
Oui, en fait...
Tu as vécu aussi en Allemagne pendant ton enfance?
Oui, je suis né en Italie et à l'âge d'un an, mes parents ont dû déménager en Allemagne parce qu'ils avaient trouvé du travail là-bas. Et on est parti là-bas.
C'était où en Allemagne? Raconte-nous un petit peu tes souvenirs, parce que j'imagine qu'entre 0 et 1 an, les souvenirs en Italie, pas trop. Mais...
J'ai pas trop de souvenirs, c'est plutôt des flashs.
En Allemagne, ouais.
Je sais que c'était du côté de Karlsruhe, c'est une ville. J'en sais pas plus, disons. Je parlais couramment allemand, ce qu'il me disait, un peu de turc aussi, parce que la Kindergarten, c'est la maternelle de l'Allemagne, ce qu'on appelle comme ça, il y avait des copains turcs et du coup forcément on apprend un peu, quand on est gamin on est comme des éponges, on apprend un peu de partout, mais je parlais quand même italien, allemand et un peu de turc dans mon enfance, chose que j'ai complètement oublié maintenant.
Et en Allemagne, c'est jusqu'à tes 7-8 ans, c'est ça que tu as vécu en Allemagne? Est-ce que tu faisais déjà du sport là-bas en Allemagne?
Non, pas du tout.
D'accord.
Au moins, j'ai pas de souvenir de ça.
D'accord, ok. Donc après, il y a eu un retour en Italie, tes parents sont revenus en Italie, au même endroit dont tu nous parlais, dans le sud de l'Italie?
Oui, on est revenu à Messagne, dans ma ville de natale, et là, j'ai fait ma scolarité,
C'était quoi l'environnement un peu familial? Tu as des frères et sœurs?
J'ai 12 sœurs, une 12 sœurs qui sont plus petites que moi. Et non, ça se passait bien. J'ai eu une enfance assez heureuse, on va dire. Je manquais de rien. On n'était pas riches, mais on manquait de rien non plus. C'était normal.
Comment est arrivé le sport dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait d'abord comme sport? Quels sont tes premiers souvenirs un petit peu d'être attiré par ça?
J'ai des souvenirs. J'étais très passionné par les arts martiaux, notamment mon père qui aimait aussi ça. Il a pratiqué la boxe aussi. Mais j'ai commencé par le taekwondo, un sport dans lequel ma ville excelle parce qu'on a 12 champions olympiques. Carlo Molfetta, le premier à Londres 2012, et Vito Dell'Aquila, le dernier aux derniers Jeux Olympiques.
Donc les deux sont originaires de ta ville en Italie?
Alors, ils sont originaires de ma ville et ils sont originaires de la salle où moi j'ai pratiqué.
Du club de la salle où tu faisais du taekwondo.
La New Martial Taekwondo, avec le maestro Baldivo Roberto, qui est très 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 reconnu. Maintenant dans le monde, parce que...
Ouais, donc il y a un savoir-faire là-bas sur l'apprentissage du taekwondo.
Il y a un savoir-faire qui est très 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 fort, parce que notamment ils ont déménagé le centre national en fait là-bas.
D'accord.
Donc les athlètes italiens, ils s'entraînent tous là-bas dans ma ville.
Ouais, c'est le cœur du taekwondo italien qui se centralise là-bas.
Exactement.
Monde. D'accord. C'est un peu le centre d'entraînement national. Du coup, taekwondo d'abord, après jusqu'à quel âge et ta rencontre avec la boxe, du coup, ça s'est fait plus tard?
Après, je trouvais que voilà, le taekwondo, c'était pas assez accrocheur, on va dire. Je cherchais quelque chose de plus dur, entre guillemets.
T'étais un enfant qui avait besoin de lâcher des choses.
Beaucoup d'énergie. J'ai pratiqué pas mal de sports. J'ai fait du football, de l'escrime aussi. Et la boxe, c'est un peu l'escrime des poings. La posture est très ressemblante.
Le jeu de jambes, la gestuelle des jambes peut-être.
Les déplacements exactement, parce que c'est une façon de se déplacer assez particulière, parce que pour pousser vers l'avant, vous devez actionner votre jambe arrière, et pour pousser vers l'arrière, votre jambe avant. Donc ce sont des mouvements qui sont très techniques, et je m'en aperçois quand j'entraîne aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas l'habitude d'effectuer ces gestes, je m'aperçois que c'est un peu difficile, ils ont des difficultés.
Donc pour revenir un petit peu sur cet environnement italien et ta découverte avec la boxe, donc raconte-nous un petit peu tes premiers pas dans la boxe. Donc tu as trouvé un club là-bas chez toi?
Oui,
à partir de quel âge tu as fait la boxe?
Alors, à partir de 15 ans, j'avais un club à Brindisi. Le problème, c'était le déplacement. Parce que c'est une ville qui est à une vingtaine de kilomètres. Et voilà, à l'époque, pareil, quand on n'a pas de moyens, j'y allais en train. Des fois, c'était ma mère qui m'accompagnait, ou des amis. Et voilà, j'ai commencé à faire ma carrière là-bas.
Qu'est-ce qui t'a plu dans la boxe? Qu'est-ce que tu ressentais sur le ring, les sensations? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu ta vie, quoi?
Bah oui, ce sont des sensations particulières parce que la boxe, c'est un sport de confrontation. Souvent, je pose la question d'ailleurs à mes élèves parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui les pousse à rentrer dans une salle de boxe. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, en fait, on a toujours des choses à régler, soit avec soi-même, soit avec les autres. Parce que c'est un sport de confrontation, un sport particulier où on exprime, en fait, les sentiments primaires de l'homme. Je pense que l'homme, le premier sport qu'il a pratiqué, c'était la boxe, se battre, la course. Donc ce sont des choses qu'on a en nous. Et que dans les sociétés modernes, aujourd'hui, on a tendance un peu à refouler parce que le politiquement correct nous impose de plus dire ci, de plus faire ça. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent justement pour extérioriser ces frustrations aussi qu'ils ont parce que on est confronté toujours soit à notre hiérarchie, soit à nos parents, à nos enfants, à nos amis. C'est pour ça, en étant un sport de confrontation, j'ai retrouvé vraiment ce que je recherchais, moi.
Et toi, donc, tout ce que tu dis là, tu l'as éprouvé à titre personnel, c'est quelque chose qui te faisait du bien et qui te permettait,
oui,
te permettait de laisser échapper un petit peu des frustrations.
Oui, parce qu'en étant un enfant assez timide dans mon adolescence, et ayant un père quand même un peu dur, ça me permettait vraiment d'évacuer toutes ces... ce stress que je pouvais engendrer soit à la maison, soit à l'école.
Tu avais l'impression d'exister aussi un peu pleinement pendant le temps de la boxe.
Il y a un avant le combat, déjà on ressent déjà ces sensations-là dans le vestiaire, toute la préparation. Après, voilà, il y a la phase d'échauffement et l'annonce du boxeur sur le ring, et du vestiaire au ring, c'est pareil. La tension commence à monter, l'adrénaline vous prend, et on a quand même toujours cette sensation de peur. Voilà, le boxeur qui dit « j'ai jamais peur », je pense pas qu'il dise le vrai. Après, cette peur aussi, voilà, soit elle est bénéfique, et vous lâchez les chevaux, soit vous retient. J'ai beaucoup d'exemples des boxeurs qui... au moment de commencer le match, ils sont tétanisés et puis ils n'arrivent pas à s'exprimer.
Oui, il y a cet enjeu de dépasser la peur à un moment donné, de dépasser cet obstacle personnel, intime.
En fait, oui, en fait, moi, c'était juste...
Au-delà de l'adversaire.
Exactement. Moi, c'était jusqu'au premier coup de poing. Soit que je prenais, soit que je donnais. Et après, il y avait une porte qui s'ouvrait et ça y est, on retrouvait toutes nos sensations. Mais ce sont des sensations quand même assez étranges, on va dire.
Ouais, c'est des sensations non ordinaires de la vie normale. Elles apparaissent pas dans la vie normale. Il y a que l'espace de jeu. Alors là, c'est la boxe. Ça peut être. C'est plutôt sous forme de question, mais on a l'impression qu'il y a que l'espace sportif qui peut nous les apporter, ces sensations, ces émotions.
Exactement, parce qu'il y a aussi le concept de défi. Voilà, on défie. Tu veux me défier? Allez, on va voir qui c'est le meilleur. Mais ça aussi, c'est dans la vie, c'est pareil. Dans notre environnement là, de travail, c'est pareil. Il y a toujours le collègue qui veut vous dépasser. Il y a un peu de jalousie, des choses comme ça. Et sur le ring, c'est pareil. Votre adversaire, il veut vous dépasser. Mais voilà, vous êtes là pour lui en empêcher et puis montrer que vous êtes le meilleur.
Alors, tu parlais tout à l'heure de... On s'immergeait un petit peu dans l'environnement d'un combat, là, le vestiaire, le trajet, arriver sur le ring, les premiers coups. Tout ça pour dire que donc toi, tu as eu un parcours de boxe dans le haut niveau. Tu as été boxeur professionnel ou tu as fait des combats?
Non, j'étais boxeur amateur. Donc
d'accord.
J'étais deux fois champion d'Italie junior.
Ok.
Après, le monde professionnel, pour le rejoindre, on a besoin d'aide. Et comme vous avez pas ces moyens-là, quelqu'un qui vous porte vers le haut, un promoteur ou voilà des gens comme ça, c'est difficile d'émerger tout seul. Après, il y a aussi le problème de pour engager une carrière professionnelle, quand on parle de professionnel, on parle d'argent. Et voilà, si on a par personne vous paye, c'est difficile d'être boxeur professionnel.
Oui, comme dans beaucoup de sports, il y a aussi la logique économique qui fait que même si on a le niveau, c'est difficile d'en vivre et d'arriver à construire quelque chose de valable financièrement aussi pour en vivre.
Oui, du moment où on rentre dans le monde professionnel, voilà, on parle d'argent, il ne faut pas se cacher. Et moi, j'avais besoin d'aider ma famille économiquement et j'ai commencé à travailler dans. Je faisais un peu beaucoup de travail, de travaux, on va dire. J'étais maçon, j'étais plombier.
Oui, donc tu as toujours cumulé à la fois le travail comme tout un chacun, mais aussi la boxe, l'entraînement, les combats aussi. Voilà,
c'était
ça allait ensemble.
Voilà, c'était un assemblage.
Alors là, on était un peu en Italie, en Allemagne, de retour en Italie. On est un peu basculé autour aussi des sensations de la boxe. Donc, on est toujours avec Cosimo Muccio sur Radio G et sur les réseaux de la Dalle Angevine. Aujourd'hui, on est à Angers, on se voit à Angers. Comment ça s'est fait le déplacement? On a vu que dans ton parcours de vie, très tôt déjà, il y a un mouvement, il y a une découverte d'un autre pays, l'Allemagne. Comment ça s'est fait ta venue à Angers depuis l'Italie? Est-ce qu'il y a eu des étapes avant? Tu as voyagé ou comment tu t'es retrouvé ici?
Bah, comme je l'ai dit auparavant, donc en ayant effectué beaucoup de boulot, j'ai entrepris celui de serveur. Donc j'avais un cousin qui était chef dans une cuisine et il a pris un café dans le nord de l'Italie. Du coup, il m'a appelé pour aller travailler avec lui. Et c'est lui qui m'a initié au boulot de serveur. Et à partir de là, j'ai commencé par aller un peu partout en Italie. Je faisais les saisons, donc l'été à la mer.
Déjà, tu voyageais par ce boulot, tu voyageais beaucoup en Italie, tu vois, dans ton pays.
Ouais. Oui, c'est un travail qui favorise en fait le déplacement parce que voilà, l'été à la mer et l'hiver à la montagne, je faisais les saisons. Et j'ai fait la connaissance de quelqu'un, d'une Française, qui m'a amené en fait. À venir ici, voilà.
D'accord, ok. Donc tu as découvert un petit peu l'Anjou par ce biais-là. Depuis quand tu habites ici? Ça fait combien de temps que tu es sur Angers?
Alors je me suis installé en 97.
97, oui. D'accord. Et alors comment ça s'est passé un petit peu dans ta vie d'adulte de venir en France depuis l'Italie, la langue, l'adaptation, la découverte d'une autre culture? Qu'est-ce qui t'a tout de suite frappé, plu ou qu'est-ce qui a été difficile? Raconte-nous un petit peu cette adaptation.
En fait, je suis arrivé ici, j'avais 25 ans. Et à 25 ans, on peut dire que j'ai eu une deuxième renaissance. Parce que quand vous arrivez dans un pays et vous parlez pas un mot de la langue.
Tu parlais pas du tout la langue au début.
Non, je connaissais bonjour, au revoir, et c'est tout. Et j'étais un peu l'attraction des amis de cette connaissance que j'ai eue. Et tout le monde me posait des questions. Heureusement qu'elle était là pour me faire la traduction. Et tout le monde, voilà, voulait savoir, pareil, comment on vit en Italie, si les différences qu'il y a entre l'Italie et la France. Bah, moi, j'ai trouvé un peu plus de froideur ici. En Italie, on est un peu plus ouvert, on va dire. Et ici, c'est dur de se faire des amis. Bah, au moins, c'est pour moi.
Oui, tout à fait. Les liens humains, se relier les uns les autres de manière un peu naturelle, dans la rue, etc.
Le relationnel,
ça se fait beaucoup plus
même.
Simplement et voilà,
en Italie,
et spontanément.
Tu peux voir des amis, tout le monde vient te parler. Et ici, voilà, il y a un peu plus de réserve. Mais c'est quelque chose qui me va parce que moi aussi, je suis quelqu'un de réservé. Et par contre, ce qui m'a plu, c'est, disons, l'organisation. Qu'il y a un truc tout bête, une anecdote. La première fois que j'ai été acheter du pain, je suis rentré dans une boulangerie et j'étais tout de suite devant le comptoir. Et sans m'apercevoir qu'il y avait une file de gens un derrière l'autre, parce qu'en fait, en Italie, la file, c'est plutôt un entonnoir. Donc c'est le premier qui arrive qui est servi, on va dire.
On fait pas trop attention à ça, à qui est arrivé avant, de respecter une forme de discipline.
Voilà,
sur cet exemple-là en
exactement.
Particulier.
Exactement. Et d'ailleurs, maintenant quand je retourne en Italie, je me fais avoir à chaque fois. Je suis toujours le dernier servi parce que j'ai pris cette habitude. C'est comme la façon de conduire, c'est pareil. Voilà, j'ai eu pas mal d'amendes par une conduite un peu indisciplinée. Et voilà, c'est.
Parce que c'est une question d'habitude où voilà là-bas ça se fait un petit peu comme
ça. Voilà, en Italie,
où
il y a de la place, on passe,
ouais.
Et puis voilà, que ça soit couleur de bus, tout ça, voilà, c'est un peu plus.
Donc en tout cas, tu t'es plu ici à Angers, en Anjou, vu que tu y es encore. C'est un environnement qui te plaît. C'est ton pays, quoi. Maintenant,
exactement. C'est on peut considérer ça comme mon deuxième pays parce que en plus je l'ai choisi. Je trouve qu'Angers, c'est une ville qui est à dimension humaine, ni trop grande, ni trop petite. Elle est très bien structurée. Il y a tout ce qu'on peut désirer, on va dire. Il y a des cinémas, il y a des parcs, il y a des théâtres, il y a des salles de sport. Moi ça me convient.
Alors, tu te plais tellement à Angers que tu as fondé ton propre club de boxe à Saint-Barthélemy d'Anjou, précisément, en 2019. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure au moment de la création? Quel était ton désir?
Oui, après avoir été dans le club d'Angers Boxing Club, où j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, après j'ai senti le besoin de créer quelque chose de mien, on va dire. Et j'ai demandé différentes communes aux alentours d'Angers, puis Saint-Barthélemy a bien voulu accepter mon projet. Et avec la municipalité, on a mis en place, la chose. Et c'est quelque chose, voilà, qui me tenait à cœur. Après mettre mon expérience au service des jeunes et l'apprendre la boxe.
Donc le projet c'était ça, de créer un univers un peu bienveillant, familial, où accueillir des gens qui avaient envie de faire de la boxe. Alors quel type de boxe, quel type de personnes, comment ça se passe dans ton club?
Alors au début, donc on a créé ce club pour faire de la compétition et puis accueillir du public, de tout public on va dire, donc du plus jeune au plus ancien. Après je me suis aperçu, voilà, en faisant de la compétition, les gens ils s'engageaient pas comme je le souhaitais, parce que la boxe c'est un sport assez dur et il faut s'entraîner, disons, tous les jours. Les gens n'étant pas assez constants dans l'entraînement, j'ai senti plus le besoin de me diriger le club un peu vers le bien-être et la défense personnelle, on va dire.
Donc tu t'as observé aussi les goûts des uns et des autres et tu as réorienté un petit peu le projet vers les aspirations des membres, quoi.
Exactement. J'ai un public à Saint-Bar assez varié, on va dire, mais tout le monde ne souhaitait pas faire de la compétition. Et exactement, du coup, on a un peu, on fait aussi du cas par cas, on va dire. On essaie d'adapter. Les exercices selon les capacités physiques et psychologiques aussi des adhérents. Après, à la suite de certaines confidences que certains de mes boxeurs m'ont fait, j'ai décidé aussi de créer un programme qui s'appelle Box Thérapie, voilà. Et je donne des cours particuliers aux adhérents qui m'en font la demande pour extérioriser un peu leurs soucis, leurs tracas de la vie quotidienne. Et ça lui apporte vraiment un réel bien-être.
Ça, c'est en individuel ou c'est par groupe ou...
Non, je travaille en individuel au club. Mais je suis aussi sollicité par différentes associations maintenant qui me demandent mes services, on va dire. Notamment Maison Olympe, avec laquelle je vais travailler, Femmes d'ici et d'ailleurs. Et je travaille aussi avec un établissement qui s'appelle l'EREA, c'est un internat à Saint-Barthélemy, dans lequel on fait des interventions.
Donc tu peux comme ça prendre en charge ponctuellement des groupes issus d'autres structures sur demande. C'est quoi le travail? Ça peut être de la confiance en soi, par exemple, autre chose? C'est vraiment sur demande en fonction d'une population donnée, de leurs besoins, de leurs envies?
Oui, tout à fait. On peut travailler en groupe aussi. On commence, puisqu'on parle de boxe, les gens au départ ils sont un peu stressés, ils s'attendent pas, ils savent pas où on va dire. Boxe toujours vu comme sport un peu, disons violent entre guillemets, mais on peut utiliser la boxe aussi à des fins thérapeutiques. Et la preuve en est que je suis assez sollicité là-dessus. On travaille sur les exercices de la boxe, on va dire, sur certaines techniques qui permettent aussi aux gens de retrouver une certaine confiance et d'aller mieux pour, de leur quotidien.
Ouais, tu as découvert, tu parlais toi de ton rapport un peu originel à la boxe par rapport à la compétition, c'est ce que tu voulais faire. On a l'impression que tu as découvert aussi un autre pouvoir de la boxe sur l'intime, sur l'intimité de chacun, sur le développement de chacun, et tu explores ça, on dirait.
Oui, c'est ça. En étant boxeur, tu te retrouves tout seul face à un adversaire. La boxe, c'est un sport de confrontation, et on est confronté tous les jours aux gens qui nous entourent, à nos parents, à notre chef hiérarchique, à nos enfants. Et on peut perdre à un moment donné confiance quand les choses ne vont pas, disons, de la direction où on souhaite. Et la boxe aide vraiment à retrouver cette confiance en soi et puis améliorer notre quotidien.
Ça doit être des relations humaines fortes, du coup, avec celles et ceux que tu accompagnes dans le cadre de cette box-thérapie. On va tout de suite dans l'intime, dans le profond, j'imagine.
Oui, c'est ça. On instaure un sentiment de confiance entre l'entraîné et l'entraîneur, on va dire, ce qui permet d'extérioriser un peu notre mal-être et essayer, voilà, d'aller mieux dans la vie, quoi.
Donc la boxe et le sport en général qui peuvent aussi permettre d'aller mieux à tout un chacun. Ça s'appelle AM Boxing, c'est à Saint-Barthélemy. Allez voir un petit peu le sur les réseaux sociaux du club de Mino qu'on a accueilli aujourd'hui. Dernière question avant de se quitter, Mino. Quand est prévu le prochain voyage en Italie?
Alors d'habitude, j'y vais tous les étés, au mois d'août. Voilà, donc je pense l'été prochain, on partira vers le soleil.
Merci beaucoup Mino pour ta visite.
Merci à toi Valentin, c'est gentil.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de Venu d'ailleurs sur Radio G et sur les réseaux de la Dalle Angevine.